Chapitre 176. Hampton Court. Cette révélation que nous venons de voir Montalais faire à la Vallière, à la fin de notre avant-dernier chapitre, nous ramène tout naturellement au principal héros de cette histoire, pauvre chevalier errant au souffle du caprice d'un roi. Si notre lecteur veut bien nous suivre, nous passerons donc avec lui ce détroit plus orageux que le Rip qui sépare Calais de Douvres. Nous traverserons cette verte et plantureuse campagne aux mille ruisseaux qui scintillent, Chering, Maidstone et 10 autres villes plus pittoresques les unes que les autres, et nous arriverons enfin à Londres. De là, comme des limiers qui suivent une piste, lorsque nous aurons reconnu que Raoul a fait un premier séjour à Whitehall, un second à St. James, quand nous saurons qu'il a été reçu par Monk et introduit dans les meilleures sociétés de la cour de Charles II, nous courons après lui jusqu'à l'une des maisons d'été de Charles II, près de la ville de Kingston, à Hampton Court, que baigne la Tamise. Le fleuve n'est pas encore, à cet endroit, l'orgueilleuse voie qui charrie chaque jour un demi-million de voyageurs et tourmente ses eaux noires comme celles du Cocyte en disant « Moi aussi, je suis la mer ». Non, ce n'est encore qu'une douce et verte rivière aux margelles moussues, aux larges miroirs reflétant les saules et les hêtres, avec quelques barques de bois desséchées qui dorent çà et là au milieu des roseaux, dans une anse d'aunes et de myosotis. Les paysages s'étendent alentour, calmes et riches. La maison de briques perce de ses cheminées, aux fumées bleues, une épaisse cuirasse de houx flaves et verts. L'enfant, vêtu d'un sarrau rouge, paraît et disparaît dans les grandes herbes comme un coquelicot qui se courbe sous le souffle du vent. Les gros moutons blancs ruminent en fermant les yeux sous l'ombre des petits trembles trapus, et, de loin en loin, le martin-pêcheur, au flanc d'émeraude et d'or, court comme une balle magique à la surface de l'eau et frise étourdiment la ligne de son confrère, l'homme-pêcheur, qui guette, assis sur son batelet, la tanche et la lauze. Au-dessus de ce paradis, fait d'ombre noire et de douce lumière, se lève le manoir d'Hampton Court, bâti par Worsley, séjour que l'orgueilleux cardinal avait créé désirable même pour un roi, et qu'il fut forcé, en courtisan timide, de donner à son maître Henri VIII, lequel avait froncé le sourcil d'envie et de cupidité, au seul aspect du château neuf. Hampton Court, aux murailles de briques, aux grandes fenêtres, aux belles grilles de fer, Hampton Court, avec ses mille tourillons, ses clochetons bizarres, ses discrets promenoirs et ses fontaines intérieures pareilles à celles de l'Alhambra, Hampton Court, c'est le berceau des roses, du jasmin et des clématites. C'est la joie des yeux et de l'odorat, c'est la bordure la plus charmante de ce tableau d'amour que déroula Charles II, parmi les voluptueuses peintures du Titien, de Pordenone, de Van Dyck, lui qui avait dans sa galerie le portrait de Charles Ier, roi martyr, et sur ses boiseries les trous des balles puritaines lancées par les soldats de Cromwell le 24 août 1648, alors qu'ils avaient amené Charles Ier prisonnier à Hampton Court. C'est là que tenait sa cour ce roi toujours ivre de plaisir, ce roi poète par le désir, ce malheureux d'autrefois qui se payait par un jour de volupté, chaque minute écoulée naguère dans l'angoisse et la misère. Ce n'était pas le doux gazon d'Hampton Court, si doux que l'on croit fouler le velours. Ce n'était pas le carré de fleurs touffues qui ceint le pied de chaque arbre et fait un lit aux rosiers de 20 pieds qui s'épanouissent en plein ciel comme des gerbes d'artifice. Ce n'étaient pas les grands tilleuls dont les rameaux tombent jusqu'à terre comme des saules et voilent tout amour et toute rêverie sous leur ombre, ou plutôt sur leur chevelure. Ce n'était pas tout cela que Charles II aimait dans son beau palais d'Hampton Court. Peut-être était-ce alors cette belle eau rousse, pareille aux eaux de la mer Caspienne, cette eau immense, ridée par un vent frais, comme les ondulations de la chevelure de Cléopâtre, ces eaux tapissées de cressons, de nénuphars blancs aux bulbes vigoureux, qui s'entr'ouvrent pour laisser voir comme l'œuf le germe d'or rutilant au fond de l'enveloppe laiteuse, ces eaux mystérieuses et pleines de murmures, sur lesquels naviguent les cygnes noirs et les petits canards avides, frêles couvées au duvet de soie, que poursuivent la mouche verte sur les glaïeuls et la grenouille dans ses repères de mousse. C'étaient peut-être les houes énormes au feuillage bicolore, les ponts riants jetés sur les canaux, les biches qui brament dans les allées sans fin et les bergeronnettes qui piétinent en voletant dans les bordures de buis et de trèfles. Car il y a de tout cela dans Hampton Court. Il y a, en outre, les espaliers de roses blanches qui grimpent le long des hauts treillages pour laisser retomber sur le sol leur neige odorante. Il y a dans le parc les vieux sycomores au tronc verdissant qui baignent leurs pieds dans une poétique et luxuriante moisissure. Non, ce que Charles II aimait dans Hampton Court, c'était les ombres charmantes qui couraient après-midi sur ses terrasses lorsque, comme Louis XIV, il avait fait peindre leur beauté dans son grand cabinet par un des pinceaux intelligents de son époque, pinceau qui savait attacher sur la toile un rayon échappé de tant de beaux yeux qui lançaient l'amour. Le jour où nous arrivons à Hampton Court, le ciel est presque doux et clair comme en un jour de France. L'air est d'une tiédeur humide, les géraniums, les pois de senteur énormes, les seringas et les héliotropes jetés par millions dans le parterre exhalent leurs arômes enivrants. Il est 1 heure. Le roi, revenu de la chasse, a dîné, rendu visite à la duchesse de Castelmaine, la maîtresse en titre, et, après cette preuve de fidélité, il peut à l'aise se permettre des infidélités jusqu'au soir. Toute la cour folâtre et aime. C'est le temps où les dames demandent sérieusement aux gentilshommes leurs sentiments sur tel ou tel pied plus ou moins charmant, selon qu'il est chaussé d'un bas de soie rose ou d'un bas de soie verte. C'est le temps où Charles II déclare qu'il n'y a pas de salut pour une femme sans le bas de soie verte, parce que mademoiselle Luce Tiward les porte de cette couleur. Tandis que le roi cherche à communiquer ses préférences, nous verrons, dans l'allée des hêtres qui faisait face à la terrasse, une jeune dame en habit de couleur sévère marchant auprès d'un autre habit de couleur lilas et bleu sombre. Elles traversèrent le parterre de gazon, au milieu duquel s'élevait une belle fontaine aux sirènes de bronze, et s'en allèrent en causant sur la terrasse, le long de laquelle, de la clôture de briques, sortaient dans le parc plusieurs cabinets variés de forme. Mais comme ces cabinets étaient pour la plupart occupés, ces jeunes femmes passèrent. L'une rougissait, l'autre rêvait. Enfin, elles vinrent au bout de cette terrasse qui dominait toute la Tamise, et, trouvant un frais abri, s'assirent côte à côte. « Où allons-nous, Steward ?» dit la plus jeune des deux femmes à sa compagne. « Ma chère Grafton, nous allons, tu le vois bien, où tu nous mènes. »« Moi ? Sans doute, toi, à l'extrémité du palais, vers ce banc où le jeune Français attend et soupire. » Miss Mary Grafton s'arrêta court. « Non, non, dit-elle, je ne vais pas là. »«
Pourquoi ?
Retournons, Steward. »
« Avançons, au contraire, et expliquons-nous. »«
Sur quoi ?»«
Sur ce que le vicomte de Bragelonne est de toutes les promenades que tu fais, comme tu es de toutes les promenades qu'il fait. »«
Et tu en conclus qu'il m'aime ou que je l'aime ?»«
Pourquoi pas ? C'est un charmant gentilhomme. »«
Personne ne m'entend, je l'espère, » dit Miss Lucy Seward, en se retournant avec un sourire qui indiquait, au reste, que son inquiétude n'était pas grande.
« Non, non, dit Mary, le roi est dans son cabinet ovale avec M. de Buckingham. »«
À propos de M. de Buckingham, Mary,
quoi ?
Il me semble qu'il s'est déclaré ton chevalier depuis le retour de France. Comment va ton cœur de ce côté ?»
Mary Grafton haussa les épaules.
« Bon, bon, je demanderai cela au beau Bragelonne, dit Stewart en riant. « Allons le retrouver bien vite. »«
Pourquoi faire ?
J'ai à lui parler, moi. »«
Pas encore. Un mot auparavant. Voyons, toi, Steward, qui sais les petits secrets du roi ?»«
Tu crois cela ?»«
Dame, tu dois les savoir ?»«
Ou personne ne les saura. »«
Dis, pourquoi M. de Bragelonne est-il en Angleterre ? Et qui fait-il ?»«
Ce que fait tout gentilhomme envoyé par son roi vers un autre roi. »
« Soit. Mais sérieusement, quoique la politique ne soit pas notre fort, nous en savons assez pour comprendre que M. de Bragelonne n'a point ici de mission sérieuse. « Écoute, » dit Steward avec une gravité affectée, « je veux bien pour toi trahir un secret d'État. Veux-tu que je te récite la lettre de crédit donnée par le roi Louis XIV à M. de Bragelonne et adressée à Sa Majesté le roi Charles II ?»«
Oui, sans doute. »
La voici. « Mon frère, je vous envoie un gentilhomme de ma cour, fils de quelqu'un que vous aimez. Traitez-le bien, je vous en prie, et faites-lui aimer l'Angleterre. » Il y avait cela, tout net, ou l'équivalent. Je ne réponds pas de la forme, mais je réponds du fond. Eh bien, qu'en as-tu déduit, ou plutôt, qu'en a déduit le roi? Que Sa Majesté française avait des raisons pour éloigner M. de Bragelonne et le marier autre part qu'en France. De sorte qu'en vertu de cette lettre, le roi Charles II a reçu Bragelonne, comme tu sais, splendidement et amicalement. Il lui a donné la plus belle chambre de Whitehall, et comme tu es la plus précieuse personne de sa cour, attendu que tu as refusé son cœur, allons, ne rougis pas. Il a voulu te donner du goût pour le français et lui faire ce beau présent. Voilà pourquoi, toi, héritière de 300 000 livres, toi, future duchesse, toi, belle et bonne, il t'a mise de toutes les promenades dont M. de Bragelonne faisait partie. Enfin, c'était un complot, une espèce de conspiration. Vois si tu veux y mettre le feu, je t'en livre la mèche. » Miss Mary sourit avec une expression charmante qui lui était familière et serrant le bras de sa compagne. « Remercie le roi, » dit-elle. « Oui, oui, mais M. de Buckingham est jaloux. Prends garde, » répliqua Stewart. Ces mots étaient à peine prononcés que M. de Buckingham sortait de l'un des pavillons de la terrasse et, s'approchant des deux femmes avec un sourire, « Vous vous trompez, Miss Yousey ?»« Non, non, je ne suis pas jaloux. Et la preuve, Miss Mary, c'est que voici là-bas celui qui devrait être la cause de ma jalousie, le vicomte de Bragelonne qui rêve tout seul. Pauvre garçon, permettez donc que je lui abandonne votre gracieuse compagnie pendant quelques minutes, attendu que j'ai besoin de causer pendant ces quelques minutes avec Miss Lucy Stewart. » Alors, s'inclinant du côté de Lucy, « Me ferez-vous, dit-il, l'honneur de prendre ma main pour aller saluer le roi qui nous attend ?» Et, à ces mots, Buckingham, toujours riant, prit la main de Miss Stewart et l'emmena. Restée seule, Mary Grafton, la tête inclinée sur l'épaule, avec cette mollesse gracieuse particulière aux jeunes Anglaises, demeura un instant immobile, les yeux fixés sur Raoul, mais comme indécise de ce qu'elle devait faire. Enfin, après que ses joues, en pâlissant et en rougissant tour à tour, eurent révélé le combat qui se passait dans son cœur, elle parut prendre une résolution et s'avança d'un pas assez ferme vers le banc où Raoul était assis et rêvait comme on l'avait bien dit. Le bruit des pas de Miss Mary, si léger qu'il fût sur la pelouse verte, réveilla Raoul. Il détourna la tête, aperçut la jeune fille et marcha au-devant de la compagne que son heureux destin lui amenait. « On m'envoie à vous, monsieur, » dit Mary Grafton. « M'acceptez-vous ?»« Et à qui dois-je être reconnaissant d'un pareil bonheur, mademoiselle ?» demanda Raoul. « À monsieur de Buckingham, » répliqua Mary en affectant la gaieté. « À monsieur de Buckingham, qui recherche si passionnément votre précieuse compagnie ? Mademoiselle, dois-je vous croire ?» « En effet, monsieur, vous le voyez, tout conspire à ce que nous passions la meilleure, ou plutôt la plus longue part de nos journées ensemble. Hier, c'était le roi qui m'ordonnait de vous faire asseoir près de moi à table. Aujourd'hui, c'est monsieur de Buckingham qui me prie de venir m'asseoir près de vous sur le banc. » « Et il s'est éloigné pour me laisser la place libre ?» demanda Raoul avec embarras. « Regardez là-bas, au détour de l'allée, il va disparaître avec Miss Stewart. « A-t-on de ces complaisances-là en France, monsieur le vicomte ?»« Mademoiselle, je ne pourrais trop dire ce qui se fait en France, car à peine si je suis français. J'ai vécu dans plusieurs pays et presque toujours en soldat. Puis j'ai passé beaucoup de temps à la campagne, je suis un sauvage. »« Vous ne vous plaisez point en Angleterre, n'est-ce pas ?»« Je ne sais, » dit Raoul distraitement et en poussant un soupir. Comment, vous ne savez ?
Pardon, fit Raoul en secouant la tête et en rappelant à lui ses pensées. Pardon, je n'entendais pas.
Oh, dit la jeune femme en soupirant à son tour, comme le duc de Buckingham a eu tort de m'envoyer ici.
Tort ? Dit vivement Raoul. Vous avez raison, ma compagnie est maussade et vous vous ennuyez avec moi. Monsieur de Buckingham a eu tort de vous envoyer ici.
C'est justement, répliqua la jeune femme avec sa voix sérieuse et vibrante, c'est justement parce que je ne m'ennuie pas avec vous que monsieur de Buckingham a eu tort de m'envoyer près de vous.
Raoul rougit à son tour.
Mais, reprit-il, comment monsieur de Buckingham vous envoie-t-il près de moi et comment y venez-vous vous-même? Monsieur de Buckingham vous aime et vous l'aimez.
Non, répondit gravement Mary, non, monsieur de Buckingham ne m'aime point puisqu'il aime madame la duchesse d'Orléans. Et quant à moi, je n'ai aucun amour pour le duc.
Raoul regarda la jeune femme avec étonnement. Êtes-vous l'ami de monsieur de Buckingham, vicomte ? Demanda-t-elle.
Monsieur le duc me fait l'honneur de m'appeler son ami depuis que nous nous sommes vus en France.
Vous êtes de simple connaissance, alors ?
Non, car monsieur le duc de Buckingham est l'ami très intime d'un gentilhomme que j'aime comme un frère.
De monsieur le comte de Guiche ?
Oui, mademoiselle.
Lequel aime madame la duchesse d'Orléans ?
Oh, que dites-vous là ?
Et qui en est aimé, continua tranquillement la jeune femme.
Raoul baissa la tête. Miss Mary Grafton continua en soupirant.
Ils sont bien heureux. Tenez, quittez-moi, monsieur de Bragelonne, car monsieur de Buckingham vous a donné une fâcheuse commission en m'offrant à vous comme compagne de promenade. Votre cœur est ailleurs, et à peine si vous me faites l'aumône de votre esprit. Avouez, avouez. Ce serait mal à vous, vicomte, de ne pas avouer.
Madame, je l'avoue. Elle le regarda. Il était si simple et si beau. Son œil avait tant de limpidité, de douce franchise et de résolution, qu'il ne pouvait venir à l'idée d'une femme, aussi distinguée que l'était Miss Mary, que le jeune homme fût un discourtois ou un niais. Elle vit seulement qu'il aimait une autre femme qu'elle, dans toute la sincérité de son cœur.
« Oui, je comprends, dit-elle. Vous êtes amoureuse en France. »
Raoul s'inclina.
« Le duc connaît-il cet amour ?»«
Nul ne le sait, répondit Raoul.
« Et pourquoi me le dites-vous, à moi ?»«
Mademoiselle... »«
Allons, parlez !»«
Je ne puis. »«
C'est donc à moi d'aller au-devant de l'explication. Vous ne voulez rien me dire à moi, parce que vous êtes convaincue maintenant que je n'aime point le duc ?» Parce que vous voyez que je vous eusse aimé peut-être, parce que vous êtes un gentilhomme plein de cœur et de délicatesse, et qu'au lieu de prendre, ne fût-ce que pour vous distraire un moment, une main que l'on approchait de la vôtre, qu'au lieu de sourire à ma bouche qui vous souriez, vous avez préféré, vous qui êtes jeune, me dire, à moi qui suis belle, j'aime en France. Eh bien, merci, monsieur de Bragelonne, vous êtes un noble gentilhomme, et je vous en aime davantage d'amitié. À présent, ne parlons plus de moi, parlons de vous. Oubliez que Miss Grafton vous a parlé d'elle. Dites-moi pourquoi vous êtes triste, pourquoi vous l'êtes encore davantage depuis quelques jours. »
Raoul fut ému jusqu'au fond du cœur à l'accent doux et triste de cette voix. Il ne put trouver un mot de réponse. La jeune fille vint encore à son secours.
« Plaignez-moi, dit-elle. « Ma mère était française, je puis donc dire que je suis française par le sang et l'âme. » Mais sur cette ardeur plane sans cesse le brouillard et la tristesse de l'Angleterre. Parfois, je rêve d'or et de magnifiques félicités, mais soudain la brume arrive et s'étend sur mon rêve qu'elle éteint. Cette fois encore, il en a été ainsi.
« Pardon, assez là-dessus, donnez-moi votre main et comptez vos chagrins à une amie. »
« Vous êtes française, avez-vous dit, française d'âme et de sang ?»«
Oui, non seulement, je le répète, ma mère était française, mais encore, comme mon père, ami du roi Charles Ier, s'était exilé en France, et pendant le procès du prince et pendant la vie du protecteur, j'ai été élevée à Paris. À la restauration du roi Charles II, mon père est revenu en Angleterre pour y mourir presque aussitôt, pauvre père.
Alors, le roi Charles m'a faite duchesse et a complété mon douaire. Avez-vous encore quelques parents en France ? Demanda Raoul avec un profond intérêt. J'ai une sœur, mon aînée de 7 ou 8 ans, mariée en France et déjà veuve. Elle s'appelle Madame de Bellière. Raoul fit un mouvement. Vous la connaissez ? J'ai entendu prononcer son nom. Elle aime aussi, et ses dernières lettres m'annoncent qu'elle est heureuse, donc elle est aimée. Moi, je vous le disais, monsieur de Bragelonne, j'ai la moitié de son âme, mais je n'ai point la moitié de son bonheur. Mais parlons de vous. Qui aimez-vous en France ?
Une jeune fille douce et blanche comme un lys.
Mais si elle vous aime, pourquoi êtes-vous triste ?
On m'a dit qu'elle ne m'aimait plus.
Vous ne le croyez pas, j'espère ?
Celui qui m'écrit n'a point signé sa lettre.
Une dénonciation anonyme ? Oh, c'est quelque trahison, dit Miss Grafton.
Tenez, dit Raoul en montrant à la jeune fille un billet qu'il avait lu 100 fois. Mary Grafton prit le billet et lut.
Vicomte, disait cette lettre, vous avez bien raison de vous divertir là-bas avec les belles dames du roi Charles II, car à la cour du roi Louis XIV, on vous assiège dans le château de vos amours. Restez donc à jamais à Londres, pauvre vicomte, ou revenez vite à Paris.
Pas de signature ? Dit Miss Mary.
Non.
Donc, n'y croyez pas.
Oui, mais voici une seconde lettre.
De qui ?
De Monsieur de Guiche.
Oh, c'est autre chose. Et cette lettre vous dit ?
Lisez. Mon ami, je suis blessé, malade. Revenez, Raoul, revenez. De Guiche.
Et qu'allez-vous faire ? Demanda la jeune fille avec un serrement de cœur.
Mon intention, en recevant cette lettre, a été de prendre à l'instant même congé du roi.
Et vous la reçûtes ?
Avant-hier.
Elle est datée de Fontainebleau.
C'est étrange, n'est-ce pas ? La cour est à Paris.
Enfin, je fusse parti. Mais quand je parlais au roi de mon départ, il se mit à rire et me dit « Monsieur l'ambassadeur, d'où vient que vous partez ? Est-ce que votre maître vous rappelle ?» Je rougis, je fus décontenancé, car, en effet, le roi m'a envoyé ici, et je n'ai point reçu d'ordre de retour.
Mary fronça un sourcil pensif.
« Et vous restez ? » demanda-t-elle.
« Il le faut, mademoiselle.
Et celle que vous aimez ? »
« Eh bien,
vous écrit-elle ? »
« Jamais. »
« Jamais ? Oh, elle ne vous aime donc pas ? »
« Au moins, elle ne m'a point écrit depuis mon départ. »
Vous écrivait-elle auparavant ?
Quelquefois.
Oh, j'espère qu'elle aura eu un empêchement.
Voici le duc, silence !
En effet, Buckingham reparaissait au bout de l'allée, seul et souriant. Il vint lentement et tendit la main aux deux causeurs.
Vous êtes-vous entendus ? Dit-il.
Sur quoi ? Demanda Mary Grafton.
Sur ce qui peut vous rendre heureuse, chère Mary, et rendre Raoul moins malheureux.
« Je ne vous comprends point, milord, » dit Raoul.
« Voilà mon sentiment, Miss Mary. Voulez-vous que je vous le dise devant monsieur ?» Et il souriait.
« Si vous voulez dire, » répondit la jeune fille avec fierté, « que j'étais disposée à aimer monsieur de Bragelonne, c'est inutile car je le lui ai dit. »
Buckingham réfléchit et, sans se décontenancer, comme elle s'y attendait,
c'est, dit-il, parce que je vous connais un délicat esprit et surtout une âme loyale que je vous laissais avec monsieur de Bragelonne, dont le cœur malade peut se guérir entre les mains d'un médecin comme vous.
Mais, milord, avant de me parler du cœur de monsieur de Bragelonne, vous me parliez du vôtre. Voulez-vous donc que je guérisse 2 cœurs à la fois ?
Il est vrai, Miss Mary, mais vous me rendrez cette justice que j'ai bientôt cessé une poursuite inutile, reconnaissant que ma blessure à moi était incurable.
Mary se recueillit un instant.
« Milord, dit-elle, monsieur de Bragelonne est heureux. Il aime, on l'aime. Il n'a donc pas besoin d'un médecin tel que moi. »
« Monsieur de Bragelonne, dit Buckingham, est à la veille de faire une grave maladie et il a besoin plus que jamais que l'on soigne son cœur.
« Expliquez-vous, milord, demanda vivement Raoul.
« Non, peu à peu je m'expliquerai. Mais si vous le désirez, Je puis dire à Miss Mary ce que vous ne pouvez entendre. « Milord, vous me mettez à la torture. Milord, vous savez quelque chose. Je sais que Miss Mary Grafton est le plus charmant objet qu'un cœur malade puisse rencontrer sur son chemin. Milord, je vous ai déjà dit que le vicomte de Bragelonne aimait ailleurs, dit la jeune fille. Il a tort. Vous le savez donc, monsieur le duc, vous savez donc que j'ai tort?
Oui.
Mais qui aime-t-il donc? S'écria la jeune fille. Il aime une femme indigne de lui, dit tranquillement Buckingham, avec ce flegme qu'un Anglais seul puise dans sa tête et dans son cœur. Miss Mary Grafton fit un cri qui, non moins que les paroles prononcées par Buckingham, appela sur les joues de Bragelonne la pâleur du saisissement et le frissonnement de la terreur. « Duc, s'écria-t-il, vous venez de prononcer de telles paroles que, sans tarder d'une seconde, je m'en vais chercher l'explication à Paris. »
« Vous resterez ici, » dit Buckingham.
« Moi ? » ?»«
Oui, vous. »
« Et comment cela ?»«
Parce que vous n'avez pas le droit de partir et qu'on ne quitte pas le service d'un roi pour celui d'une femme, fût-elle digne d'être aimée comme l'est Mary Grafton. Alors, instruisez-moi. »«
Je le veux bien, mais resterez-vous ?»«
Oui, si vous me parlez franchement. »
Ils en étaient là, et sans doute Buckingham allait dire non pas tout ce qui était, mais tout ce qu'il savait, lorsqu'un valet de pied du roi parut à l'extrémité de la terrasse et s'avança vers le cabinet où était le roi avec Miss Stewart. Cet homme précédait un courrier poudreux qui paraissait avoir mis pied à terre il y avait quelques instants à peine.
« Le courrier de France, le courrier de madame !» s'écria Raoul, reconnaissant la livrée de la duchesse.
L'homme et le courrier firent prévenir le roi, tandis que le duc et Miss Grafton échangeaient un regard d'intelligence.